Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Place aux idées avec les amis du Parc de Chartreuse et aujourd'hui à l'honneur le collectif citoyen Autonomie Alimentaire. Et pour faire un petit peu le point et découvrir cette association, eh bien on accueille deux personnes, Emmanuel Couvreur et Corinne Villers. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et bienvenue sur Radio Couleur Chartreuse. Alors ensemble, eh bien, on va découvrir un petit peu le collectif, les actions, les objectifs, un petit peu tout ça, les actions concrètes aussi. Hein, voilà, on va découvrir tout ça ensemble. C'est un peu le sommaire de notre émission. Donc eh bien, on commence par présenter ce collectif, peut-être Citoyen Autonomie Alimentaire. Racontez-nous un petit peu son histoire et sa genèse.
Alors, le collectif est né en fait au printemps 2020 de rencontres en fait, et on s'est retrouvé autour d'un objectif qui était celui de soutenir une agriculture qui permet de nourrir les personnes sur nos territoires. En fait, on parle de résilience alimentaire, voilà. Et plus que finalement un collectif, c'est plutôt un intercollectif. Qui regroupe plusieurs collectifs citoyens qui existaient déjà et qui continuent de fonctionner. Alors par exemple, si on veut les citer, ces collectifs, donc on a le collectif citoyen solidaire pour demain, qui est sur Saint-Étienne de Crossé, Saint-Aupre et Saint-Nicolas de Macherin. Il y a aussi la fabrique citoyenne sur Aprieux et le collectif citoyen Valden, par exemple. Voilà. Donc Tous ces collectifs interagissent et couvrent finalement un territoire qui va de la Chartreuse, le Pays Voironnais, jusque Bièvre-Est.
Bon, ça fait un joli territoire, mine de rien.
Oui, ça fait une quarantaine de communes, ouais. Et en plus, ça déborde. En fait, au départ, on était parti sur le territoire du Pays Voironnais et on a vite été approché par des citoyens du secteur de la Bièvre. Voilà, on a même participé à des réunions intercollectives grâce aux Amis du Parc.
C'est les Amis du Parc en fait, qui vous ont mis en relation tout cela
Un petit peu. En fait, au départ, historiquement autour du pain, de la ville du pain, autour du lac de Charavrine, déjà d'expériences de collectifs citoyens qui ont démarré il y a plus de 20 ans. Et on s'est appuyé sur leur réseau pour communiquer sur le collectif citoyen qu'on était en train de créer. Et d'ailleurs, je vais revenir sur la création. Tout le monde se souvient qu'au démarrage du Covid, la période du Covid, on a commencé à voir les supermarchés qui se vidaient, tout le monde commençait à s'inquiéter sur le problème de comment on allait se nourrir, si jamais les voies de circulation allaient se fermer, si voilà.
Alors c'est vrai que les supermarchés ont été désertés, mais par contre, ce qui ont gagné, ce sont les magasins de producteurs à certains endroits.
Tout à fait. Et donc c'est cette période de crise qui a permis de trouver des solutions. Et par exemple, on a plusieurs cas de marchés qui se sont créés à cette occasion, en utilisant les systèmes, les réseaux sociaux pour que les gens puissent commander leurs produits et ensuite se mettre en relation avec les producteurs qui leur livraient sur des marchés. Donc,
on se souvient bien des fameux click and collect.
Voilà, click and collect qui ont permis déjà de créer ce système de résilience, on peut dire, par rapport au problème de l'alimentation. Et puis du coup, ça a permis de mettre en lien beaucoup de citoyens, et c'est comme ça que nous on s'est retrouvés tout de suite au bout de 15 jours avec 80 personnes. Voilà. Et puis c'était aussi avant les élections municipales, pendant la préparation de ces élections, des candidats aux élections dans les communes nous ont contactés en nous disant votre collectif nous intéresse et on ne pourra pas avancer sur les problématiques de démocratie locale sans fonctionner avec les collectifs citoyens.
C'est bien, il y a quand même une prise de conscience au niveau de nos responsables politiques, entre guillemets, pour communiquer avec ce qui se passe vraiment sur le terrain, quoi.
Voilà, et surtout au moment des élections, quoi. Pour avoir plus de chances d'être élu, pour monter des programmes politiques cohérents, ils se rapprochent non seulement des partis politiques, mais aussi des dynamiques citoyennes, quoi.
Oui, puisqu'elles savent faire.
Voilà. Parce qu'elles ont des bons exemples, elles savent réunir entre eux les... Voilà. Et il se trouve que les candidats qui nous ont contactés avant les élections, dans cette période, ont été élus. Et en plus, ils ont été élus dans notre communauté de communes, au niveau vice-présidence, conseil communautaire. Et après les élections, ils nous ont rappelé en nous disant, bah, écoutez, voilà, maintenant qu'on est élus, on tient nos engagements, c'est-à-dire qu'on vous propose de faire partie d'instances des communautés de communes.
Voilà. Donc, en gros, vous représentez un petit peu la population et ce collectif au sein de la communauté de la Comcom du Pays Voironnais.
Voilà. Alors, vas-y.
Bon, c'est très bien tout ça.
Ouais.
Ça, c'est un bon engagement déjà.
Mm-hmm. Il se trouve qu'en plus, le Pays Voironnais a des différentes commissions spécifiques sur nos sujets.
Oui, par exemple, on fait partie du groupe de pilotage de la commission agriculture, alimentation et forêt. Donc en tant que représentant citoyen, en fait, on est amené à participer aux réunions qui se déroulent sur ces thématiques.
Bon, très bien. C'est un bon engagement de la
part. Donc ça veut dire que même, en fait, ce qui est intéressant pour les auditeurs, c'est que tout un chacun avec des groupes de personnes peut monter un collectif. Surtout qu'un collectif, ce n'est pas une association. C'est un collectif de personnes sur un thème donné. Et en fait, l'idée d'un collectif sur un thème donné, c'est de rassembler sur des thèmes communs les associations qui travaillent sur ce thème. Donc en fait, on a choisi de ne pas créer une structure supplémentaire associative propre à notre collectif. On réunit des initiatives citoyennes sur un même sujet.
Oui, et puis du coup, on fonctionne un peu finalement en intercollectif, puisqu'on rassemble un regroupement de plusieurs collectifs existants sur ces territoires. Et du coup, on fonctionne plutôt en circulation d'informations et échanges pour se soutenir, pour faire des actions sur différents thèmes qui sont autour de l'alimentation et la production alimentaire de proximité.
Alors, c'est vrai que ça passe par la préservation des terres, entre autres, il y a ça. Stop à l'artificialisation, bon, j'y suis arrivé en une fois, des sols. Expliquez-nous ce que c'est l'artificialisation.
C'est éviter en fait d'utiliser des terres agricoles pour simplement bétonner, faire des constructions, des parkings, c'est essayer de préserver des terres pour garder finalement un potentiel de culture et la possibilité de sauvegarder notre autonomie alimentaire. En fait, voilà le point commun de tous ces collectifs et de ce rassemblement, ça a été l'autonomie alimentaire. C'est vrai que c'est assez curieux d'imaginer que finalement sur nos territoires, on l'a vu, on parlait du Covid, dès qu'il y a une crise, mais ça peut être une crise, un problème de transport, d'acheminement des denrées alimentaires, en fait on est très très dépendant sur notre territoire des territoires extérieurs. On n'est pas autonome, en fait. Si on a été très surpris, mais quand on s'est un peu renseigné, on s'est rendu compte que finalement, seulement 5% des denrées que l'on consomme sur notre territoire proviennent effectivement de notre production locale. En fait, 95% vient d'ailleurs.
Alors que plus de 50% des territoires, des parcelles agricoles que vous voyez autour de vous, dans notre territoire qui comporte...
Oui, il y en a quand même pas mal.
Il y en a énormément. On a la chance d'avoir un territoire où les villes occupent finalement peu d'espace par rapport à tous les terrains qu'on voit. Malheureusement, la plupart des terrains agricoles qu'on voit sont utilisés pour faire de la production agricole qui ne reste pas sur notre territoire. Donc on est en train de...
Oui, ça sert plus à l'export que...
Voilà, nous on risque d'avoir des difficultés pour manger, alors qu'on a de la production agricole tout autour de nous, mais qu'on ne peut pas manger. Enfin, à moins qu'on mange du maïs la moitié de l'année, et que du maïs, quoi.
Oui.
Donc l'idée, c'est d'utiliser ces terrains-là, donc ça, c'est aussi l'objet de nos préoccupations, c'est-à-dire de faire en sorte que... les terrains agricoles qui restent soient utilisés pour faire de la production agricole alimentaire.
Et en local.
Et en local.
Là, on va se retrouver dans quelques instants sur Radio Couleur Chartreuse, juste après une pause musicale. A tout de suite.
You fix this. intrusif, plus combatif, sous sédatif, en soins intensifs, cherche le motif. If négatif, maladif, inexpressif et plus vraiment vif, cherche le motif. If trop captif et décoratif,
if défensif, à cran offensif,
if incisif, mes coups de canif,
if agressif,
qui est le fautif. If intrusif, plus combatif, sous sédatif, en soins intensifs, cherche le motif. If négatif, maladif, inexpressif et plus vraiment vif, cherche le motif.
Bienvenue sur Radio Couleur Chartreuse dans cette émission Place aux idées avec les amis du Parc de Chartreuse et le collectif citoyen Autonomie Alimentaire avec nos deux intervenants Emmanuel Couvreur et Corinne Villers. On parlait de l'alimentation, enfin les différentes thématiques, donc c'est l'alimentation, la gestion de l'eau aussi, chose qui est très importante. On l'a bien remarqué l'an dernier avec la sécheresse, avec parfois le manque d'eau dans certaines communes hein, quand même. Il y a tourné le robinet, il n'y avait plus d'eau, c'est arrivé. Donc la gestion de l'eau, la préservation de la qualité aussi. Donc c'est vrai que ce sont des thèmes de prédilection.
Et pour revenir à l'artificialisation des sols, j'y suis arrivé aussi. Artificialisation, en fait, on a nos membres de collectifs participent aussi aux enquêtes d'utilité publique dès qu'il y a une zone d'activité qui est prévue sur un territoire ou lorsqu'il y a un projet d'aménagement routier. Par exemple, en ce moment, on est bien mobilisé sur le sujet du barreau. Ce qu'on appelle le barreau, c'est une nouvelle voie qui est prévue. Enfin, dont le projet, c'est de relier le péage de Champfeuillet à la ville de Moirans pour fluidifier la circulation des véhicules. Et pour l'instant, ce projet passe sur des terrains agricoles, sur des forêts, etc. Donc, on travaille, nous, auprès des élus pour montrer que si ce projet a lieu, ça va donc empiéter sur des terrains agricoles et donc ça va limiter notre, au-delà du problème de biodiversité. Hein,
oui, parce que la faune, enfin voilà, est quand même là aussi.
Voilà.
Les animaux.
Donc ça va avoir, on travaille sur les conséquences d'une construction au niveau de l'impact sur notre capacité alimentaire, quoi.
Donc effectivement, donc vos actions elles sont diverses. Hein. On a parlé de la production locale de qualité, les conditions aussi d'installation des agriculteurs qui voudraient venir s'installer là, mais c'est compliqué.
Voilà, c'est compliqué parce que donc c'est un vaste sujet dont on entend beaucoup parler en ce moment. C'est le problème du foncier agricole. en fait, qui est protégé par une réglementation qui s'appelle le droit de fermage, qui date d'après la guerre, hein, d'après la Deuxième Guerre mondiale. En fait, l'idée, c'était de nourrir la France suite à la guerre et donc de faire en sorte de vraiment protéger les exploitations agricoles au niveau des successions, au niveau de la préemption, etc., pour garantir la pérennité des exploitations agricoles et pour qu'elles restent dans le giron familial pour qu'il y ait une continuité. Mais ça, c'était à l'époque où il y avait des agriculteurs partout en France. Enfin, il y en avait beaucoup plus. Hein.
Oui, parce qu'on est vraiment sur un déclin quand même. Là.
La moitié de la population était sur des métiers liés à l'agriculture, quoi. Ce qui n'est plus vrai maintenant. Et la difficulté, c'est que la plupart des exploitations maintenant qui sont cédées, c'est-à-dire dont les exploitants arrivent à l'âge de la retraite, eh bien, ces exploitations partent aux exploitations voisines. Et au fil du temps, donc, on a les exploitations qui augmentent en superficie et donc les prétendants à ces exploitations qui s'appellent ce que l'on appelle dans notre jargon les porteurs de projets agricoles, ne peuvent pas accéder à ces exploitations parce qu'elles sont beaucoup trop grandes pour elles et donc beaucoup plus coûteuses et pas forcément adaptées.
Oui, c'est ça, parce qu'on est en train finalement de créer des exploitations, des grosses exploitations. Bon, ça n'a rien à voir, ce n'est pas des bêtes de 40 000 bêtes,
non.
Mais mine de rien, petit à petit, ça pourrait arriver à des choses qui sont un peu trop grosses finalement.
Comme ça existe dans certains territoires français, ouais.
Plutôt que de faire justement plusieurs petits producteurs, c'est plus enrichissant et plus riche pour le territoire.
Tout à fait, il y a deux aspects. Il y a l'aspect de ce qu'on appelle la polyculture, c'est-à-dire de continuer à voir ce qui se faisait avant finalement, d'avoir des exploitations où les gens étaient complètement autonomes sur leur ferme, c'est-à-dire qu'ils produisaient de la viande, des légumes, des céréales, et ça faisait une sorte d'écosystème. Donc l'idée, c'est de regrouper les agriculteurs maintenant sur ce type d'exploitation, sur des exploitations qui sont cédées, pour continuer à faire de la polyculture. L'intérêt, c'est un intérêt écologique, et puis aussi un intérêt économique, parce que les exploitants qui sont uniquement sur un modèle économique, sur un monoproduit comme les producteurs de lait ou les producteurs de céréales, sont complètement liés et dépendants du prix de leurs produits, quoi. Qui sont maintenant, on le voit de plus en plus avec les guerres, enfin les conflits mondiaux, hein, qui sont de plus en plus liés à la prix des produits qu'il y a au niveau de l'Europe et au niveau du prix des productions agricoles, le taux mondial et puis la dépendance des productions des autres pays, quoi.
Voilà, il me reste une minute après, allez-y.
Oui, pour finir aussi sur les transmissions d'exploitation, la difficulté aussi à laquelle on est confronté, c'est que par exemple en Isère, plus de la moitié des exploitants actuels ont 50 ans et dans une dizaine d'années vont céder leur exploitation. Et cette transmission, en fait, est compliquée parce que souvent les terres ne sont pas transmises forcément aux porteurs de projets dont parlait Emmanuel, mais parce que ces porteurs de projets qui arrivent ne sont pas forcément connus. Et du coup, n'ont pas la possibilité d'acquérir en fait ces terres à exploiter. Et finalement, c'est bien dommage parce que il manque finalement des rencontres entre les personnes qui vont bientôt cesser leur activité et ces porteurs de projets qui sont à la recherche de terres pour démarrer une activité. Et on n'encourage pas suffisamment ce genre de rencontres, d'initiatives. Ça, c'est une idée qui nous trotte un peu dans la tête à mettre en place dans le futur.
Très très bien, et puis au niveau de vos actions, on va dire concrètes, donc vous échangez avec les élus, comme on l'a dit tout à l'heure, puisque vous faites partie maintenant du côté de la communauté de communes du Pays Voironnais, et puis vous faites diverses actions aussi, notamment participer aux jardins partagés, les visites des jardins partagés.
Oui, des visites de jardins partagés qui auront lieu le dimanche 30 avril après-midi entre 14 et 17 heures. Donc plusieurs lieux, deux jardins partagés. Il y a le bio-jardin partagé de Coubleville. Il y a aussi le Jardin du Sourire qui est une association tenue par le Rigaudon de Voiron. Et enfin, le verger Coublefruit, qui est un verger associatif, qui vient juste de démarrer avec la plantation d'arbres fruitiers. Ces trois lieux sont autour du parc de la mairie. Dans le parc de la mairie, pour les journées de l'environnement, il y aura des actions. Et à partir du parc de la mairie, seront fléchés ces trois lieux où vous attendent donc des membres de ces associations pour vous présenter leurs activités. Et à côté de ces visites, il y aura aussi des petits ateliers, notamment un atelier sur les plantes comestibles sauvages, mais aussi la possibilité de repartir avec des graines potagères ou aromatiques, ou encore pour les plus jeunes et pour leurs parents, des petites animations autour de jeux d'observation et... Voilà, donc un moment festif aussi avec de la musique et on vous attend nombreux à cette occasion.
Bon bah très bien tout ça. Mise en place d'ateliers découvertes avec aussi des chantiers participatifs. Mmh. Ce sont aussi dans vos actions, j'allais dire, hein, c'est ça ?
Tout à fait, oui, tout à fait. L'idée, c'est que on sait très bien que même si ça fait mal au dos d'arracher des mauvaises herbes, ça fait du bien à la tête, puisque d'être à l'extérieur, de sortir des écrans et de participer à plusieurs avec des chantiers participatifs pour donner un coup de pouce aux agriculteurs qui en ont besoin sur des périodes. Par exemple, en ce moment, les agriculteurs ont besoin de monde dans les champs pour préparer les plantations. Et donc, il y a besoin de gens qui participent à l'arrachage des pissenlits, des mauvaises herbes et qui aident ponctuellement sur des plantations. Ça ne demande pas beaucoup de compétences. Ça permet d'être ensemble, faire une activité manuel ensemble, ça permet d'être en plein air, ça permet de connaître réellement le métier des exploitants, parce qu'ils ont à cœur de parler du contexte de travail, de leurs difficultés, des points positifs. Et donc il y a cet aspect-là, et puis de faire ensuite, ça c'est ce qui se fait à ce moment-là, et puis après... On sait que au moment de la pleine récolte, il y a besoin de saisonniers, mais il y a aussi besoin de citoyens qui peuvent participer simplement à des récoltes de fruits ou de légumes. Hein. Ce qui, bon, c'est pas pour en veillant bien sûr de sauvegarder le travail de chacun. Hein. Il ne s'agit pas de prendre le travail des agriculteurs. Hein. C'est uniquement ce sont des coups de pouce ponctuels qu'on peut donner.
En tout cas, si on a quelque chose à vous demander, on va peut-être donner une adresse mail.
Oui, hein. Tout à fait.
Donc, c'est
e-couvreur, donc tout attaché. E, c'est la première lettre de mon prénom, Emmanuel. Couvreur, comme mon métier, tout attaché, @wanadoo.fr. Voilà, donc si vous êtes intéressé par participer à ces activités de chantier participatif, n'hésitez pas à m'envoyer un message.
Eh bien, voilà. La bonne adresse est donnée, j'allais dire.
Tout à fait.
Vous restez avec nous, amis auditeurs, auditrices. On va se retrouver dans un instant pour une deuxième partie sur RCC. Petite pause musicale proposée par vos soins. Et puis, je vous propose, tiens, de retrouver tout de suite Aretha Franklin avec Respect. À tout de suite. Bienvenue à tous dans cette émission sur Radio Couleur Chartreuse, émission Place aux idées avec les amis du Parc de Chartreuse et aujourd'hui le collectif citoyen Autonomie Alimentaire avec Emmanuel Couvreur et Corinne Villers. Rebienvenue à tous les deux. Deuxième partie ensemble et là on va parler un petit peu des échanges avec les élus du Pays Voironnais puisqu'on a dit que vous faisiez partie maintenant avec eux de la communauté de communes pour représenter le collectif. Donc parlez-nous un petit peu de tout ça, comment au niveau des projets, mouvements citoyens et puis plusieurs rencontres surtout en 2020 et 2021.
Oui, on a donc eu l'occasion d'échanger avec plusieurs élus en les rencontrant, plusieurs des élus qui sont des maires de communes du Pays Voironnais notamment, qui nous ont reçus pour échanger sur essayer de mettre en place des discussions d'actions. Donc il y a eu effectivement plusieurs rencontres. À côté de ça, donc on participe régulièrement au groupe de pilotage agriculture, alimentation, forêt de la communauté de communes du Pays Voironnais.
Et également du groupe intercommunal d'attribution des aides à l'installation et l'investissement. Donc là, régulièrement, tous les deux mois, on reçoit les agriculteurs qui sont porteurs de projets.
Il y en a combien là, à peu près?
D'agriculteurs sur le territoire.
Porteurs de projets.
Ah, des porteurs de projets, c'est... Disons que tous les deux mois, on a à peu près trois présentations de projets. Il y a une forte demande de gens qui veulent s'installer, qui ont déjà un projet d'installation. Et dans ce cas-là, le Pays Voironnais donne un petit coup de pouce, une somme pouvant aller jusqu'à 6 000 euros quand même.
Pour l'installation.
Pour leur installation, ou bien ceux qui sont installés pour faire des nouveaux investissements. Donc ces porteurs de projets viennent se présenter individuellement. Ils ont fait déjà une étude économique de leur installation.
C'est quoi les profils ?
Alors les profils, ce sont souvent des gens qui sont en reconversion, c'est-à-dire c'est des jeunes qui ont moins de 35 ans, qui ont en général un niveau de formation minimum bac plus 5, qui ont déjà eu une expérience de 5 ou 10 ans de vie active, qui avaient peut-être déjà avant une passion sur tout ce qui était environnemental et puis le sujet de l'agriculture. Et qui ont fait une formation. Alors, ils sont obligés d'avoir aussi un minimum de bac pro agricole, de gestion d'installation. Et ils se sont formés assez vite. Alors, c'est souvent des gens qui sont associés dans un GAEC quand ce sont des grosses exploitations, par exemple, d'élevage. Donner un cas typique qu'on a eu récemment, c'est une exploitation sur 70 hectares, 70 bêtes. Et il y a déjà deux associés, il y en a... une personne, alors une femme ou un homme qui vient, parce qu'il y a aussi des femmes qui s'engagent dans ces métiers-là et qui choisissent de venir compléter l'équipe du GAEC, du groupement agricole économique, et qui prennent des parts dans la société et du coup qui s'installent avec eux et du coup en même temps qui proposent des évolutions dans l'exploitation, des évolutions, un peu une transition sur leur façon de fonctionner. Mais souvent, c'est des individuels qui choisissent à s'installer en maraîchage ou en production de petits fruits ou en arboriculture, en faisant de la taille d'arbres, des greffes, etc. Et souvent, ces gens-là, ils ont un profil particulier, c'est-à-dire qu'ils aiment bien la pédagogie, ils aiment bien aussi transmettre leurs connaissances et ils proposent, même quand ils présentent leur installation, déjà de faire des stages, d'accueillir des stagiaires ou même des petites formations adressées aux citoyens sur leur savoir-faire.
Donc vous faites partie de ces deux groupes, si on a bien tout suivi, avec la mission évidemment d'informer et de former, du coup, avec les diverses mairies, et notamment, il y a la DICRIM. Alors, qui veut nous en parler de la DICRIM?
Qu'est-ce que c'est? Dans les rencontres avec les élus, on s'est rendu compte que justement cette mission d'information et de formation était importante. Le DICRIM, c'est un document sur les risques. C'est un document que chaque mairie, en fait, se doit de rédiger pour prévenir, en fait, les risques possibles dans sa commune. Donc c'est variable selon les communes. Les risques ne sont pas les mêmes. Mais nous, qui étions sur les thématiques de l'alimentation, de l'autonomie alimentaire, on s'est un petit peu posé la question, qu'est-ce qui était mis en place pour prévenir les risques en cas de pénurie alimentaire ? Est-ce qu'il y avait des organisations qui étaient prévues par les mairies pour tout cela ? Donc on est allé à la rencontre de plusieurs mairies. Et avant ça, en fait, on a contacté une mairie qui est du Pays Basque, donc c'est la commune de Biriatou. La maire nous a accordé une réunion par visio, voilà, on a échangé longuement sur leur démarche, en fait, la démarche de la commune qui avait essayé d'intégrer ce risque de pénurie alimentaire et de possibles crises, parce que, bon, on se rend bien compte que dès qu'il manque certaines denrées alimentaires, il y a vite un vent de panique parmi les habitants qui vont se précipiter et qui vont encore plus faire diminuer les stocks. Il y a des fois des mouvements de panique et comment les communes peuvent gérer finalement un risque de pénurie. Alors, est-ce que ce risque est finalement aussi extravagant ? Est-ce que c'était un peu ridicule d'imaginer cela ? Bah, déjà, on s'est rendu compte que, comme on le disait dans la première partie de l'émission, bah, que finalement, on est très dépendant de nos approvisionnements alimentaires, puisque finalement, sur le territoire, on n'a que 5% de notre alimentation réelle qui est consommée. Tout le reste vient de plus loin et on n'est pas à l'abri, en fait, d'une grève de transport, d'un blocage sur les routes des camions, parce que finalement, les stocks alimentaires, ils sont sur la route. Et donc, un problème d'approvisionnement. Très vite, finalement, les supermarchés seraient vides parce qu'on n'a finalement que trois jours de stock alimentaire. Comment on met en place cette gestion de risque ? Et là, les communes qui nous ont reçues, donc on a rencontré des techniciens des mairies de Voiron, on a rencontré le maire de Tulin, sur Moirans aussi, eh bien, ces discussions sont intéressantes parce que, justement, ben, on essaie d'imaginer des scénarios et aussi de trouver des solutions, même à plus long terme, qui pourraient limiter ce risque de crise.
Alors au Pays Basque, vous avez discuté avec eux, évidemment, ils vous ont reçu. Eux, ils ont 5 leviers en fait.
Oui, alors ils ont essayé d'abord d'évaluer la capacité de leur territoire à nourrir les populations. Donc c'est un petit peu nous ce qu'on a recueilli aussi comme information et on s'est rendu compte que notre autonomie alimentaire était très très réduite. Et après, ils ont essayé, donc en deuxième levier, de diversifier les productions agricoles. Alors, c'est des choses à long terme, parce qu'il faut commencer à réfléchir, à ne pas... Tout à l'heure, on parlait de culture exclusive de maïs. Ben, c'est vrai qu'il faut plutôt imaginer une diversité de production pour avoir tout un panel d'alimentaires.
Et prévoir du stockage.
Dans l'ancien temps, il n'était pas rare de stocker en fait, des grains... pour des graines, des réserves alimentaires pour les mois à venir. Et donc, cette capacité de stockage sur place, c'est aussi quelque chose à envisager. Après, ben, dans les autres leviers, c'est la réflexion sur les restaurations collectives, les restaurations scolaires qui passent en gestion directe et qui sont en lien avec les terres agricoles qui sont cultivées. C'est-à-dire qu'on prévoit sur la commune des terres qui vont approvisionner les cantines scolaires. On essaie de développer aussi toute une agriculture urbaine. On essaie aussi d'encourager les citoyens à revenir à la terre, à s'ils ont un petit bout de jardin, bah, à le cultiver, à participer à des jardins partagés, à remettre les mains dans la terre, tout simplement.
Bon, en tout cas, ils ont réussi à réfléchir sur le projet et ben peut-être pour faire des émules ailleurs, peut-être ici sur notre territoire.
Voilà, et donc c'est cette action. On va recontacter en fait cette mairie pour voir un petit peu leurs avancées et ça va aussi nous permettre, nous, de nous positionner, d'essayer de trouver des actions à mettre en place sur nos territoires.
Alors ce sujet-là a donné lieu donc du coup à deux formations qu'on a mis en place en 2022, dont une à Miribel et puis une autre à Charnec. Et on a réussi à réunir une vingtaine d'élus du Pays Voironnais qu'on a formés sur ce thème. Ça a été intéressant sur plusieurs titres. Déjà, ça a permis aux élus de se connaître entre eux, nous de les connaître, On est tombé vraiment époustouplé pour voir que des élus sur notre territoire étaient très sensibles à ce sujet, très motivés pour organiser quelque chose sur leur territoire. Ils avaient plein d'idées. Donc, c'était une occasion pour faire connaître notre collectif et puis aussi pour avancer ce sujet au niveau du territoire. Mais bon, c'est 20 élus sur 600 élus du territoire. Donc, il y a encore du boulot.
Il y a encore de la marge de progression. C'est ça. Et puis, une réflexion aussi sur peut-être pouvoir, on le disait, cultiver en local et faire la restauration collective pour les scolaires aussi,
oui,
en local.
Tout à fait. Il y a notamment les trois communes, moi où j'habite à Saint-Étienne-de-Crossey, il y a les trois communes de Saint-Nicolas et Saint-Aupre qui se préoccupent de ce sujet et ils ont fait faire une étude technique. Ils ont eu un financement pour faire une étude technique pour voir comment s'organiser entre les trois communes pour organiser une cuisine en gestion directe avec les investissements à faire, l'organisation, etc. Donc là, ils sont en train de dépouiller les résultats de cette étude pour la présenter au public et de voir comment ça s'organise. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous, on s'appuie beaucoup sur des choses qui ont été faites en Isère, notamment, puisqu'il y a une commune proche d'ici, les Entremonts, qui fonctionnent de cette façon-là en gestion directe. C'est-à-dire qu'ils ont... Pour la restauration scolaire, une vraie cantine avec où les plats sont préparés en essayant de s'approvisionner en local.
Alors c'est vrai que la première partie du coup a été de s'inspirer de ouais. toutes les communes et toutes les expériences, parfois à des échelles différentes, parce qu'il peut y avoir des petits volumes comme des plus grands et des projets qui finalement fonctionnent assez bien. Donc d'aller voir un peu comment se sont débrouillées les communes pour mettre en place, pour essayer de reproduire un modèle qui soit pérenne.
Et bien voilà pour cette partie sur Radio Couleur Chartreuse. Une dernière arrive et là on va parler de veille foncière.
Oui.
Sujet très intéressant. Donc là on va se retrouver dans quelques instants sur Radio Couleur Chartreuse juste après une pause musicale et je vous propose de retrouver tout de suite Arthur H, la boxeuse amoureuse. À tout de suite.
Regardez-la danser quand elle s'approche du ring. La boxeuse amoureuse, la boxeuse amoureuse. Sur ses gants dorés, des traces de sang, de larmes et de sueur. Et de sang, et de sang. Elle esquive les coups. La boxeuse amoureuse. Elle absorbe tout. La boxeuse amoureuse. Boum boum la supercute, impercute son visage. Mais jamais elle ne cesse de danser. Tomber ce n'est rien, puisqu'elle se relève, un sourire sur les lèvres, un sourire sur les lèvres. Elle absorbe boxeuses amoureuses. Oh.
Bienvenue sur Radio Couleur Chartreuse dans cette émission Place aux idées avec les amis du Parc de Chartreuse et le collectif citoyen Autonomie Alimentaire avec nos deux intervenants Emmanuel Couvreur et Corinne Villers. Et dernière partie, on va parler de la veille financière, un sujet un petit point, la veille foncière.
C'est foncière.
Mais c'est financier aussi.
Et c'est tout à fait financier.
Voilà.
Lapsus, mais finalement, on est en plein dedans.
Et justement, on allait démarrer par ce sujet-là. Hein. Tout le monde sait que le prix du foncier augmente de façon exponentielle dans nos territoires, et particulièrement le prix des terrains qui sont constructibles. Hein. La difficulté, c'est que les propriétaires de fonciers agricoles ont du mal à céder leurs terrains et les mettre à la vente. D'une part, parce qu'ils sont utilisés par des exploitants agricoles, la plupart du temps. Et d'autre part, parce qu'ils peuvent toujours espérer qu'un jour, leur terrain agricole devienne un terrain constructible. Et dans ce cas-là, le prix du terrain est multiplié par 50 ou 100 dans certains secteurs. Mais on sait très bien que sur des terrains agricoles, il faudra attendre plusieurs générations, voire certains terrains ne seront jamais constructibles, notamment parce que pour qu'un terrain soit constructible, devienne constructible, il faut que le PLU change, que les élus d'un territoire décident de faire des routes et des réseaux pour que ces terrains soient constructibles. Donc ça concerne, ça fait beaucoup de conditions pour qu'un terrain agricole devienne constructible. Ça, c'est une chose. Et puis, la nouvelle loi Allure qui guide la modification des PLU va carrément à l'encontre de transformer des terrains agricoles en constructibles, puisque l'idée, c'est du point de vue environnemental et climatique, c'est de concentrer les centres-villes au niveau de la population, d'éviter de faire ce qu'on fait depuis de nombreuses années, de l'étalement urbain. C'est très compliqué pour les élus de répondre à la demande de la population, d'avoir, comme on l'a fait depuis plusieurs années, d'avoir des lotissements avec des grands terrains, etc. Et l'idée, c'est plutôt à la concentration. Ceci dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, les propriétaires de terrains agricoles espèrent toujours qu'ils deviennent constructibles, et du coup, ils ont du mal à lâcher leur terrain pour les proposer à des porteurs de projets qui pourtant, parfois pour un projet agricole, ne recherchent que quelques milliers de mètres carrés. Sur un hectare de terrain, on peut déjà faire une exploitation de maraîchage conséquente en donnant du travail à deux ou trois personnes et en nourrissant, grâce à la production, une partie d'un village, par exemple. Pour travailler sur ce sujet-là, eh bien, il y a une association qui est une association nationale qui s'appelle Terre de Liens, qui fait ce qu'on appelle de la veille foncière, c'est-à-dire qui fait du repérage de terrains agricoles, de friches, etc. Les repères des terrains agricoles qui se libèrent grâce aux ventes, la plupart du temps, d'exploitation. Et cette association a une capacité financière. Pour cette fois, c'est bien financière pour acheter des terrains, puisqu'ils ont créé une foncière. Donc, tout à chacun peut placer 50 ou 100 euros, voire beaucoup plus, dans cette foncière. C'est ce qui permet à Terre de Liens d'acheter des terrains agricoles et ensuite de les louer avec un bail adapté pour faire de l'agriculture vertueuse, bio la plupart du temps. Hein. C'est un bail particulier. Et donc, ça permet à des porteurs de projets, comme on l'a dit tout à l'heure, de venir s'installer sur des fermes qui sont louées par Terre de Liens. Donc, c'est une association qui a été créée il y a un peu plus de 10 ans et qui a permis d'acheter en France 250 fermes où sont installés des porteurs de projets, autant sur... il y en a une très très proche d'ici.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a des antennes après par département, j'imagine.
Oui, il y a des antennes, il y a des groupes de bénévoles, puisque c'est une association qui fonctionne beaucoup avec le processus de l'éducation populaire, c'est-à-dire il y a des salariés, bien entendu, mais également des bénévoles qui se forment au fil du temps sur les compétences.
Donc Emmanuel est justement bénévole, Terre de Liens. Et nous avons d'autres personnes dans le collectif aussi qui sont des bénévoles.
Donc c'est un peu la philosophie de notre collectif, c'est-à-dire qu'on met en lien à la fois des associations comme Terre de Liens, qui sont vraiment spécialisées sur ce sujet-là. On est aussi en lien avec des associations environnementales, comme l'association Le Pic Vert, qui est bien connue sur le territoire, qui travaille sur les aspects environnementaux et qui peuvent notamment donner des conseils aux agriculteurs pour favoriser la biodiversité. Des exemples de grosses associations qui sont en lien également avec nous. Il y a un gros effort à faire aussi sur la récupération des friches industrielles ou même des friches de vieux quartiers qui sont désertées, pour les transformer, pour les réhabiliter, pour prévoir de faire de l'activité agricole dessus. Ça se fait, ça permet de limiter, si on veut créer une nouvelle zone d'activité, d'utiliser déjà ces friches-là plutôt que d'utiliser des terres agricoles, même si c'est beaucoup plus coûteux de déblayer et de nettoyer une zone d'activité, enfin de détruire des bâtiments et de faire en sorte qu'ils deviennent constructibles en évacuant tous les matériaux et en remettant tous les réseaux en place.
Vous, votre rôle, vous l'avez dit tout à l'heure hein, dans une des parties de début de l'émission, c'est en fait, vous aimeriez être le lien finalement, la possibilité de mettre en relation ceux qui arrivent à la fin bientôt, hein, puisqu'ils arriveraient à la retraite, et justement ces porteurs de projets avec des installations pour les faire rencontrer. C'est vraiment ça votre futur, j'allais dire, gros chantier.
C'est la mission 2023,
ouais. On va dire.
Et même avant ça, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est par nos contacts finalement, on essaie de répertorier les différents producteurs et toujours dans notre idée de passer de l'information, c'est pour ces nouvelles personnes qui souhaitent s'installer, c'est aussi d'avoir la possibilité de rencontrer des exploitants et par exemple de se former tout simplement aussi, d'échanger, voilà, c'est un peu faire circuler les adresses entre les personnes qui veulent s'installer et celles qui ont déjà une expérience sur le territoire.
Alors on souhaite le faire de façon la plus festive possible. On sait que les gens aiment bien se retrouver au travers d'un bon repas ou dans le cadre d'un spectacle ou d'une animation dans une ferme. Donc c'est un peu dans ce cadre-là qu'on voit les choses, que les gens se rencontrent de façon la plus détendue possible pour que la parole se libère et que les contacts se fassent, et surtout par rapport aux porteurs de projets, parce que ce qui est important, c'est qu'il y ait une relation de confiance qui s'établisse entre les gens qui veulent s'installer sur notre territoire et puis les, ce qu'on peut dire, les anciens, hein, qui ont vécu, qui ont un savoir-faire incroyable, quoi, qu'il faut aussi considérer, transmettre. Voilà.
Et c'est vrai que ce qu'on n'a pas dit, c'est que les exploitants agricoles, ils ne sont pas propriétaires de leurs terres. On n'en a pas trop parlé plus que ça, bon, à la fin de l'émission, mais au moins on en aura touché deux mots. Mais du coup, voilà, souvent on dit bah, ils sont propriétaires. Bah, non, ils sont pas propriétaires.
Ils le disent eux-mêmes, hein, quand oui. Ils vous font visiter leur exploitation, ils présentent leur terre. Alors que
c'est un foncier souvent qui est propriétaire.
Alors c'est leur terre, c'est parce que c'est leur.
Parce qu'ils le travaillent.
Voilà, c'est leur outil de travail. Voilà, c'est leur machine, c'est leur voilà, comme quelqu'un qui est dans l'industrie, vous allez visiter sur son atelier, il dit ça c'est ma machine, mais c'est pas la sienne quoi, c'est celle sur laquelle il travaille. Et un exploitant agricole, parfois ils n'ont pas plus de 5% des terres dans lesquelles ils sont vraiment propriétaires. Le reste du temps, le reste des terres, ils sont que exploitants. C'est leur outil de travail, voilà. Et donc ils ont l'idée, c'est de présenter leur savoir-faire et leurs compétences et de la transmettre aussi. Voilà.
Alors avant qu'on termine cette émission, pour la dernière minute, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait oublié à mettre en avant et que vous voudriez mettre en avant maintenant ?
Ben, moi, ce qui est important pour moi, c'est qu'on parlait de la terre. Pour moi, ça fait partie des biens communs. Voilà, pour moi, le soleil... L'eau, la terre, le monde du vivant, c'est un bien commun. Et donc, pour moi, il faut que la réglementation évolue et qu'on se rende compte que tout ce qu'on a autour de nous comme environnement, il appartient à tout le monde, en fait. Et il faut que tout le monde puisse l'exploiter du mieux possible parce que l'enjeu, c'est que ce bien commun... Il est important pour la survie de l'espèce,
pour les générations futures, quoi. Voilà. Mm-hmm. Pour la suite.
Générations suivantes.
Ouais. Ouais. On a parlé du foncier, on n'a pas tellement parlé de l'eau et on entend en fait les problèmes de risque de sécheresse et de que certains justement s'accaparent l'eau. On a entendu parler des méga bassines et vraiment voilà, c'est ce que Emmanuel dit, le bien commun, c'est ça, c'est quelque chose, une ressource qui est en train de se raréfier, dont la qualité aussi peut diminuer et qu'il faut continuer à être très vigilant et surtout à la rendre accessible à tous.
À réfléchir à des procédés dès maintenant pour pouvoir que ça perdure, quoi, que tout le monde puisse continuer à en profiter.
Bah, si vous voulez, ça rejoint la problématique de l'autonomie alimentaire. Quand on a dit tout à l'heure qu'on avait sur notre territoire la production agricole qui utilisait nos terrains, et cette production agricole, elle repart très très loin. En fait, pour produire ces productions qui vont loin, on utilise notre eau, quoi. On utilise notre bien commun, quoi. Alors, c'est pas qu'on veut fermer notre territoire par des murs, etc., et être complètement indépendant de notre territoire. Mais il faut au moins qu'on puisse utiliser l'eau. Au moins pour nous nourrir.
Et aussi l'utiliser à bon escient, parce que peut-être que justement il y a à revoir certaines cultures, certaines pratiques qui sont trop gourmandes en eau et travailler avec des denrées, des légumineuses, des moins gourmandes. Voilà. Donc il y a pas mal d'études en fait sur ce thème pour essayer de réorienter nos pratiques. Ouais.
Eh bien, merci à vous d'être venu au micro de Radio Couleur Chartreuse.
Merci à vous de nous avoir accueillis.
Merci beaucoup.
Dans cette émission spécifique Place aux idées, avec vous, le collectif Citoyen Autonomie Alimentaire, avec vous, Emmanuel Couvreur et Corinne Villers. Merci à tous les deux.
Et merci aux Amis du Parc.
Et aux Amis du Parc, effectivement, puisque c'est l'émission des Amis du Parc qui met en relation toutes les bonnes volontés, justement, et tous les projets qui se déroulent sur le territoire. Bonne journée à vous et merci. À bientôt.
Merci, au plaisir.
Amis auditeurs, auditrices, je vous rappelle que les émissions précédentes sont disponibles sur notre site internet radiocc.fr. Passez une belle journée, prenez soin de vous surtout, et à bientôt.